Quand j'étais enfant, mon père m'a dit plus d'une fois, mon pauvre Jackie, qu'est-ce que tu peux être empoté? Il faut dire que je ne suis pas très adroit de mes 10 doigts, ce qui fait que les bévues, ça me connaît. Je me suis souvent trouvé confronté à des tâches, petites et grandes, que je ne me sentais pas capable de réaliser, ce qui est un sentiment désagréable. Le grand prophète Jérémie a été choisi par l'Éternel pour un ministère qu'il n'a vraiment pas choisi. C'était pas son truc. Il faut dire qu'il était encore tout jeune, de nature timorée et sans expérience de la vie. Il avait dans les 20 ans comme Josias, le bon roi de Juda, qui lui était un homme pieux, qui entreprit plusieurs réformes religieuses afin d'essayer d'endiguer l'idolâtrie endémique qui maintenait le peuple d'Israël dans d'épaisses ténèbres spirituelles. Tout comme Moïse, Jérémie a clairement indiqué qu'il ne se sentait pas à la hauteur de la mission qui lui était confiée. Mais Dieu n'a évidemment pas accepté qu'il démissionne et lui a répondu que sa seule option était d'obéir, qu'il mettrait ses paroles dans la bouche de son prophète et le protégerait contre les Israélites infidèles qui chercheraient à lui faire du mal. Jérémie commença ses prophéties la 13e année du règne du roi Josias. Les 5 premières années de son ministère sont décrites dans les chapitres 2 à 6. Ses prédications furent données avant que, par un heureux hasard de Dieu, le grand prêtre Hilkia ne trouve dans le temple un exemplaire de la loi de Moïse. Je résume un passage qui décrit le début du règne de Josias avant cette grande trouvaille. Josias avait 8 ans à son avènement. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste. Dès la 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il entreprit de chercher à plaire au Dieu de David, son ancêtre, et la 12e année, il se mit à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des pieux sacrés d'Achéra, des idoles de bois sculptées et des idoles en métal fondu. La 18e année de son règne, afin de purifier le pays et le temple, il fit réparer le temple de l'Éternel, son Dieu. Fin de citation. Le début du ministère de Jérémie eut lieu en même temps que ces événements. Alors que la réforme religieuse allait bon train, on entreprit de remettre en état le temple qui avait été délaissé depuis les règnes des rois idolâtres Amon et Manassé, les pères et grands-pères de Josias. Pendant les réparations, le prêtre Hilkia trouva un manuscrit de la loi. Cette découverte et ses conséquences spirituelles sont racontées dans les chapitres 7 à 9. Cet incident eut un grand retentissement car il fut suivi par une nouvelle vague de réformes religieuses ainsi que d'un réveil spirituel du peuple, malheureusement superficiel. Le jeune roi Josias cherchait sincèrement la face du Seigneur, mais avant qu'on ne découvre un exemplaire de la loi, ni lui ni personne n'en possédait un exemplaire. Il avait entrepris auparavant de détruire tout ce qui avait trait à une idolâtrie grotesque et flagrante, ce qui était déjà très bien, mais ne suffisait pas. C'est pendant cette réforme religieuse initiale, entreprise par Josias, que Jérémie donne ses 2 premières séries de messages aux Israélites qui étaient idolâtres jusqu'au bout des ongles. Et c'est avec beaucoup d'émotion et le cœur gros qu'il tente d'avertir son peuple des dangers qu'il court parce qu'il a abandonné l'Éternel. Le prophète utilise une rhétorique pathétique dans laquelle il est tour à tour tendre et accusateur. La grâce et la compassion de Dieu sont mêlées aux plus sévères avertissements concernant la venue de jours ténébreux si la nation ne se repent pas de ses fautes et ne revient pas à l'Éternel. Ces prédications de Jérémie figurent parmi les grands discours des Écritures. Je commence à lire le chapitre 2. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Va à Jérusalem et crie à ses oreilles. » Voici ce que déclare l'Éternel. Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse et combien tu m'aimais au temps de tes fiançailles. Lorsque tu me suivais à travers le désert dans une terre inculte. Versets 1 et 2. Comme d'autres prophètes, Jérémie utilise la métaphore des fiançailles et du mariage pour décrire les relations de Dieu avec son peuple. Il rappelle ici, avec une émotion contenue, le temps de la jeunesse et des fiançailles entre l'Éternel et Israël. Cette époque correspond à la sortie d'Égypte et la marche dans le désert, quand le peuple avait des étoiles dans les yeux et suivait Moïse avec foi. Le jour, ils étaient guidés par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Ils dépendaient entièrement de Dieu pour subvenir à leurs besoins. Cette confiance qu'Israël avait alors en l'Éternel et Moïse est soulignée à trois reprises dans le livre de l'Exode. La nation d'Israël quitta l'Égypte en tant que fiancée de l'Éternel et devint son épouse au mont Sinaï suite au traité d'alliance de la loi. Mais à partir de ce moment-là, les étoiles se transformèrent en sable et les murmures de protestation du peuple devinrent des révoltes ouvertes. Avec le temps, les choses se gâtèrent et l'adoration de l'Éternel, le seul vrai Dieu, fut assez rapidement remplacée par un culte grossier offert aux idoles. Sommes-nous si différents? Si les Français n'adorent pas une statue, ils se courbent bien bas devant le fric et les plaisirs. C'est ça, leur Dieu. Je continue le texte. Car Israël, tu étais alors consacré à l'Éternel, tout comme les prémices d'une récolte. Tous ceux qui en mangeaient étaient châtiés et le malheur les atteignait. L'Éternel le déclare. Verset 3. Selon la loi, les premiers fruits de la terre étaient consacrés à Dieu. Pareillement, Israël était mis à part pour l'Éternel en tant que premier-né et prémices des nations. Lorsque dans le désert, la tribu des Amalécites s'attaqua à Israël, la portion réservée à Dieu, ils payèrent très cher leur agressivité. Je continue. Vous, communauté de Jacob et toutes les familles du peuple d'Israël, écoutez la parole que l'Éternel prononce. Verset 4. À partir d'ici, commence le réquisitoire de l'Éternel qui entre en procès contre son peuple. Communauté de Jacob et les familles du peuple d'Israël sont des synonymes, et cette répétition est une façon de dire que personne n'échappera au châtiment à venir. Les 10 tribus du Nord avaient disparu en tant qu'entité géopolitique, mais beaucoup d'Israélites avaient trouvé refuge chez leurs frères de sang du Sud, ce qui fait que les 12 tribus étaient bien représentées dans le royaume de Juda. Je continue. Voici ce que dit l'Éternel. En quoi donc vos ancêtres m'ont-ils trouvé en tort pour s'éloigner de moi, pour s'en aller auprès des dieux qui ne sont que du vent et n'être plus eux-mêmes que du vent? Verset 5. Jérémie commence par s'en prendre aux ancêtres qui les premiers ont déserté l'Éternel. Il dénonce le caractère insensé de l'attitude des Israélites qui ont délaissé le Dieu vivant qui est venu à leur aide tout au long de leur histoire pour s'attacher à des idoles qui ne sont que du vent. Cet acte d'idolâtrie n'est pas neutre car on devient ce qu'on adore. Le psalmiste écrit « Ils leur ressembleront ». Tous ceux qui fabriquent les idoles et tous ceux qui leur font confiance. Je continue le texte. Ils n'ont pas demandé où donc est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte et qui nous a conduits à travers le désert au pays de la steppe remplie de fondrières, dans une terre aride où règnent les ténèbres et dans une région où ne passe personne, où n'habite personne. Verset 6. Le rappel des bienfaits de l'Éternel durant le séjour des enfants d'Israël dans le désert sert à mettre en valeur à la fois l'ingratitude et la folie du peuple qui délaisse un tel Dieu. Ils se sont plaints au lieu de recourir à lui en se souvenant des délivrances qu'il avait opérées à leur égard. Je continue. Or, je vous ai conduit vers un pays fertile pour en manger les fruits, des produits excellents. Mais une fois arrivé là, vous avez souillé ce pays et fait de mon domaine un lieu abominable. Verset 7. L'Éternel a chassé les Cananéens idolâtres, mais la terre choisie n'a fait que changer de profanateur. Comme Israël était le peuple de Dieu, son pays devint la propriété particulière de l'Éternel. Une fois établi, les Hébreux avaient reçu l'ordre express « Vous ne rendrez pas impur le pays où vous demeurerez et dans lequel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des Israélites. » Mais ils ont fait fi des commandements de leur Dieu et se sont tournés vers les idoles. Je continue le texte. « Les prêtres n'ont pas demandé, où donc est l'Éternel ? Les spécialistes de la loi ne me connaissent pas. Les dirigeants du peuple se sont révoltés contre moi et les prophètes même proclament leur message au nom du dieu Baal. Ils vont après des dieux qui ne servent à rien. » Verset 8. Baal était l'une des principales fausses divinités de la Palestine. On voit une progression dans la gravité de l'offense contre l'Éternel selon sa responsabilité, son rang social. Tous les leaders faisaient précisément le contraire de ce que leur charge leur dictait. Les prêtres, ceux qui étaient supposés enseigner la loi, et les chefs politiques, au lieu de donner le bon exemple, furent les premiers à se révolter contre l'Éternel. Et plus coupables encore que tous les autres, les prophètes, des faux bien entendu, ont ouvertement prêché l'idolâtrie. Je continue le texte plus loin. « Existe-t-il un peuple qui ait changé de Dieu, et pourtant ces dieux-là ne sont pas de vrais dieux ? Pourtant, mon peuple a échangé celui qui fait sa gloire contre ce qui ne sert à rien. Cieux, étonnez-vous-en, soyez-en horrifiés et consternés, l'Éternel le déclare, car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau. » Versets 11 à 13. Alors que les peuples idolâtres conservent leur fausse divinité inutile, Israël a abandonné le vrai Dieu qui est la source d'eau vive pour des idoles de néant qui sont comme des citernes percées. Le peuple élu a commis un double crime qui est aussi une double folie. Je continue. Israël est-il donc un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi est-il mis au pillage? De jeunes lions rugissent contre lui, et ils ont transformé son pays en désert. Ses villes sont brûlées, personne n'y habite, et même les habitants de Memphis avec ceux de Daphné vous ont brisé le crâne. Pourquoi donc tout cela t'arrive-t-il? N'est-ce pas pour avoir délaissé l'Éternel ton Dieu alors même qu'il te guidait sur le chemin? Versets 14 à 17. Les petits peuples voisins de Juda faisait des razzias dans les villages du pays. En mentionnant Memphis et Daphné, deux villes égyptiennes, Jérémie prophétise la future défaite de Josias devant l'Égypte à Megiddo. Je continue. « Maintenant, que te sert de partir en Égypte pour aller boire les eaux du Nil ? Et que te sert de prendre la route pour te rendre en Assyrie pour aller boire les eaux du fleuve ?» Verset 18. Jérémie dénonce ici les alliances contractées par le pouvoir politique de Juda, tantôt avec l'Égypte, tantôt avec l'Empire assyrien, pourtant en plein déclin. Ces tractations constituaient un manque de foi flagrant à l'égard de l'Éternel. Je continue. Car ta méchanceté entraînera ton châtiment et ta révolte fera venir ta punition. Sache et vois bien combien il est mauvais, combien il est amer de t'être détourné de l'Éternel ton Dieu et de ne plus avoir aucun respect pour moi. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Verset 19. Lorsque les paroles n'ont plus d'effet, Dieu parle encore, mais avec des jugements. L'exil a eu un effet bénéfique car ceux qui en sont revenus ne sont plus retombés dans l'idolâtrie grotesque de leurs ancêtres. Je continue. Voici, depuis toujours, tu as brisé ton joug, tu as rompu tes liens en disant « Je ne veux plus être esclave ». Mais sur toute haute colline et sous tout arbre vert, toi, tu t'es allongé tout comme une prostituée. Verset 20. L'adultère spirituel consiste à quitter le vrai Dieu pour en adorer un autre. Mais si c'est pour servir tour à tour les divinités de divers peuples, c'est de la prostitution. Ces cultes idolâtres et les abominations qui les accompagnaient, comme la prostitution sacrée, se pratiquaient au sommet des collines et sous des bosquets d'arbres bien verts, symbole de fécondité. Je continue. « Moi, je t'avais planté comme un cep excellent d'une variété sûre, comment se fait-il donc que tu te sois changé en plant dégénéré d'une vigne sauvage ? Verset 21. Le prophète Ésaïe a dit que la vigne que l'Éternel a plantée avait produit des mauvais raisins. Ici, c'est le cep même qui a dégénéré. La déchéance a donc gagné les racines de la vigne. Je continue. Quand tu te laverais avec de la potasse et que tu emploierais des quantités de soude, la tache de ta faute resterait devant moi. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Verset 22. Le carbonate de soude cristallisé abondait en Égypte. Cette image, très parlante, signifie que les fautes des Israélites ne sont pas de simples taches superficielles, mais ont pénétré profondément à l'intérieur d'eux-mêmes. La maladie est grave et au stade terminal. Je continue. Comment oses-tu dire « Je ne me suis jamais souillé, je ne suis pas allé après les Baals. Va observer dans la vallée les traces de tes pas, reconnais ce que tu as fait. » Chamelle et cervelet qui va gambadant ça et là, oui, ânesse sauvage qui a l'habitude de vivre dans les steppes désertes. Le feu de sa passion lui fait renifler l'air. Qui pourrait réfréner l'ardeur de ses désirs? Tous ceux qui la recherchent n'auront pas à se fatiguer car ils la trouveront quand elle est en chaleur. Versets 23 et 24. L'ânesse sauvage est un animal indomptable qui symbolise l'insoumission des Israélites. L'idolâtrie était devenue pour eux comme un instinct animal, une frénésie sauvage, et leur endurcissement spirituel était tel qu'ils n'étaient plus conscients de leurs fautes et donc les niaient. Pourtant, ils pratiquaient des cultes abominables avec sacrifice d'enfants dans la vallée de Ben Hinnom, proche de Jérusalem. Je continue le texte. « Prends garde que ton pied ne se déchausse pas. Prends garde à ton gosier qui va se dessécher. Mais toi, tu réponds, c'est peine perdue. J'aime les étrangers, c'est eux que je veux suivre. » Verset 25. La poursuite passionnée des idoles par les Israélites est comparée à une course effrénée. Dieu se moque d'eux en leur recommandant de veiller à ne pas perdre leurs chaussures en route et à songer à bien se désaltérer. Cet humour noir sert aussi de menace, car lorsqu'ils seront emmenés en exil par les Babyloniens, ils marcheront pieds nus et n'auront rien à boire. Je continue. Comme un voleur a honte lorsqu'il est découvert, ainsi seront honteux la communauté d'Israël, ses rois et ses ministres, ses prêtres, ses prophètes. Ils disent à du bois, « Tu es mon père », et à la pierre, « Toi, tu m'as mis au monde. Ils m'ont tourné le dos, ne m'ont pas regardé en face, mais au jour du malheur, ils disent « Lève-toi, sauve-nous !» Versets 26 et 27. Israël était tombé dans le fétichisme le plus grossier. Ceux qui invoquent Dieu seulement quand les choses vont mal le traitent en fait comme une idole qui serait à leur disposition ou un objet porte-bonheur dont ils se servent pour les tirer d'affaires. C'est jamais qu'une forme de magie. Je continue. Mais où donc sont les dieux que tu t'es fabriqués? Qu'ils se lèvent donc, eux, s'ils peuvent te sauver quand le malheur t'atteint? Car, ô Juda, autant tu as de villes, autant tu as de dieux. Verset 28. Chaque ville avait sa divinité protectrice, son saint, en somme. Les inscriptions assyriennes prouvent qu'il en était bien ainsi, en Chaldée et en Assyrie. C'est encore le cas aujourd'hui partout où le seul vrai Dieu n'est pas adoré en esprit et en vérité. Je continue le texte. Pourquoi m'intenter un procès? Tous, vous vous êtes révoltés contre moi, l'Éternel le déclare. J'ai frappé vos enfants, mais c'est peine perdue, car ils n'ont pas voulu accepter la leçon. Vous avez mis à mort par l'épée vos prophètes comme un lion destructeur. Versets 29 et 30. Le plus grand tort d'Israël a été son obstination à ne pas reconnaître ses péchés et d'avoir tué les prophètes qui les leur reprochaient. Je continue. Homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple, dit-il, Nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi. » Verset 31. Le mot « génération » a ici une connotation très négative. Il fait ressortir le fait que les Israélites du temps de Jérémie étaient unis aux générations précédentes pour mal faire. Or, depuis leur sortie d'Égypte, l'Éternel a été pour les Hébreux un refuge contre les dangers du désert. Dans le livre de Jérémie, le désert symbolise les ténèbres et la mort. Je continue plus loin. « Oh, comme tu sais bien rechercher tes amants !» Verset 33. Israël emploie son temps et son ingéniosité à se chercher de nouveaux dieux et de nouveaux alliés, tantôt l'Égypte, tantôt la Syrie. Je continue. « Tu as accoutumé tes voix au crime, et jusque sur les pans de tes habits, on voit le sang de pauvres qui étaient innocents. » Tu ne les avais pas surpris en flagrant délit d'effraction. » Versets 33 et 34. La violence faisait partie des mœurs. Les pauvres gens et les prophètes étaient mis à mort sans raison. Je continue. Et malgré tout cela, tu dis, moi, je suis innocente. La colère divine va très certainement se détourner de moi. Eh bien moi, je vais te juger parce que tu prétends que tu n'as pas commis de faute. Verset 35. Le premier péché qui sera jugé est cette prétention des Israélites à ne pas se considérer coupable. Je finis le chapitre 2. Comme tu t'avilis à changer de conduite, te tourner vers l'Égypte comme vers la Syrie, cela t'attirera la honte et tu en reviendras en te cachant la face avec les mains. Car l'Éternel rejette ceux sur lesquels tu comptes. Ce n'est pas avec eux que tu réussiras à quelque chose. » Versets 36 et 37. Au lieu d'invoquer l'Éternel, les Israélites faisaient du lèche-botte, cherchant à n'importe quel prix des alliances politiques et militaires à droite et à gauche. Mais Dieu veille à ce que ces magouilles se retournent contre eux. Honteux, ils se cacheront la face dans les mains. Le geste de désespoir d'une femme violée. Dans cette portion du texte, comme d'ailleurs dans tout le livre de Jérémie, les Israélites nous donnent une leçon sur la façon dont il ne faut pas se comporter envers Dieu.